Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel étend de ses regards toute la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, il a penché son oreille vers moi. C'est vrai, c'est un berger. L'Éternel est tellement attentif. Nous allons voir dans un texte biblique du Nouveau Testament, dans les Évangiles, de quelle manière Jésus a été attentif et de quelle manière il a agi pour répondre à un besoin qui sera tellement extraordinaire. Le Seigneur entend au-delà des paroles, il entend les soupirs et les cris secrets, comme Anne, la mère de Samuel, qui pendant plusieurs années a prié pour avoir un enfant. Et l'Éternel l'a entendu, il l'a exaucé. Cet homme malade depuis 38 ans, couché à la piscine de Bethesda, lui aussi faisait partie des meubles, on ne le voyait plus, mais Jésus l'a repéré, Jésus l'a vu et a entendu le désir et le cri secret de son cœur. Et on pourrait en rajouter avec des milliers d'autres, ignorés des gens, mais vus par le Seigneur lui-même, ils ont eu droit à un rendez-vous spécial. Et ce matin, vous avez votre rendez-vous avec le Seigneur. Lisons dans Luc chapitre 13 quelques versets. Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc pour vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous, pendant le sabbat, ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat. » Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Oh, que ce matin l'Église puisse se réjouir de toutes les choses merveilleuses que le Seigneur fait. Si je vous demandais de lever la main si vous avez déjà eu mal au dos, je pense qu'il y aurait beaucoup de mains ce matin. Il semblerait que le mal du siècle n'est pas le mal du siècle d'aujourd'hui, mais a toujours été un souci de tout temps. Je ne peux oublier que dans mon premier service de baptême que j'ai conduit en 1988, quand je venais d'arriver à Vevey, je me souviens encore de toute cette ligne de baptisés. Il y avait là un monsieur de 88 ans, un charpentier, qui était désireux de prendre le baptême malgré sa condition physique un peu déplorable, car il ressemblait bel et bien à cette femme courbée. Il était littéralement plié en deux. Mais alors, je suis incapable de vous le montrer, tellement que c'était impossible. Mais il était tombé un jour de son toit qu'il était en train de réparer. Il s'est brisé la colonne vertébrale et il est resté comme cela, longtemps dans les douleurs. Et il a pris son baptême coûte que coûte à son âge de 82 ans à l'époque. Alors, c'est vrai que cette femme dont nous allons parler ne va pas seulement rejoindre les femmes ce matin. Elle va rejoindre chacun de nous peut-être. En tout cas, bien des personnes qui sont dans une condition qui ressemble à cette femme et dont je vais essayer de décrire la condition dans quelques instants. Mais n'oubliez pas que cette femme a été, comme toutes les femmes, un jour jolie et bien droite dans sa vie. Elle était debout, elle avait le visage et le regard droit devant les gens dans son village. Elle marchait, mais un jour est arrivé où peu à peu sa colonne vertébrale a commencé à céder. On ne sait pas ce qui s'est passé. Avait-elle un poids? Avait-elle un souci? Avait-elle quelque chose qui faisait qu'elle se courbait peu à peu sous la puissance d'une main, sous la force et le poids d'une main invisible qui pesait de plus en plus sur elle et qui faisait qu'elle elle n'arrivait plus à se redresser. Quelque chose d'inexplicable se passait. Médicalement, il n'y avait pas de solution. Tous les essais pour la redresser ont échoué. Rien n'y faisait. Une loi étrange, une main invisible pesait sur elle et imposait son droit sur sa vie. Quel genre de maladie avait-elle donc ? Un manque de calcium, un rhumatisme ou d'autres maladies, je ne vais pas me nommer pour ne pas me tromper, mais il y avait quelque chose d'invisible et d'inexplicable qui faisait qu'elle était pliée en deux et qu'elle ne pouvait pas, comme disait la parole, ne se redresser. Mais il doit bien y avoir une cause à cela. Lorsque je pense à la femme syrophénicienne dans Matthieu chapitre 15, cette femme qui vient non pas d'Israël, mais hors d'Israël, donc d'un milieu païen particulièrement obscur d'ailleurs, elle va venir vers Jésus, elle va dire « Jésus, ma fille à la maison est tourmentée par un démon ». Donc elle avait déjà compris qu'il y avait des problèmes spirituels qui provoquaient des maladies. Elle l'avait compris. Cet homme dans Matthieu 17 aussi réalisait que son fils était tourmenté par un démon bizarre qui lui donnait des symptômes de maladies qui aujourd'hui portent des noms. C'est vrai que certaines maladies peuvent avoir une origine spirituelle, mais rassurez-vous, tous les maux de dos ne sont pas d'ordre démoniaque, forcément. C'est précieux le dos, gardez votre dos en bon état. Moi, je fais un peu de gym de temps en temps et j'ai vu que ça aidait pas mal. Donc, nous devons faire ce qu'il faut faire pour garder notre physique en bon état. Mais ici, il nous est dit que Satan a tenu lié cette femme pendant 18 ans. 18 ans qu'elle a cherché des solutions sans rien trouver. 18 ans. Et ce qui me frappe, c'est que la Bible ne parle pas des origines de cette maladie, de ce problème spirituel. Souvent, nous commençons dans les relations d'aide avec des personnes de trouver, de chercher, de prier. D'où ça vient ce problème ? Il y a bien une origine, une racine. Et souvent, la relation d'aide est basée sur justement dénicher, trouver la racine. Et puis, on va jusque dans les ancêtres, deuxième, troisième, quatrième génération, pour trouver s'il n'y a pas quelque chose à l'origine. Alors, je ne veux pas engager un débat là-dessus aujourd'hui, mais toujours est-il qu'ici, c'est beaucoup plus simple. Et la Bible se tait sur l'origine de ce problème. Si la Bible se tait, c'est qu'il ne faut pas toujours chercher la cause, pas toujours. Toujours est-il que si Satan la tenait liée, c'est que Satan a trouvé quand même quelque part une porte ouverte dans sa vie. Il y a trouvé un droit pour installer, pour accrocher un esprit de maladie dans sa vie. Oui, le diable ne peut pas faire, j'aimerais répéter ça, je l'ai déjà dit souvent, le diable ne peut pas faire ce qu'il veut avec n'importe qui. Il ne peut pas faire ce qu'il veut dans votre vie. Même pour le non-chrétien, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Nous avons des protections. Dieu a mis des protections sur nous et nous pouvons dans notre cœur et nos choix dire non et stop à Satan et à ses séductions, à ses pièges et à cette proposition d'entrer dans le péché. Celui qui sait dire stop, il va être protégé de lui-même. Donc nous avons nous-mêmes à nous garder, à nous protéger. Mais à un moment donné, même si la Bible se tait sur l'origine précise, elle ne nomme pas le pourquoi, il y a eu quand même une origine et une porte ouverte dans sa vie, un péché, une révolte, une haine. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire qui sont des portes ouvertes qui font que l'esprit ne va pas se gêner de s'accrocher et de dominer pour finir toute la vie d'une personne et la faire plier sous son autorité. Peut-être qu'il y avait-il un mauvais sort, un héritage familial ou des pratiques interdites par la loi de la sorcellerie qui étaient strictement interdites et clairement dénoncées dans la loi de Moïse, de l'occultisme, etc., etc. Mais ce qui me frappe, c'est avec quelle facilité déconcertante Jésus règle le problème. Il la vit, il prie pas, il donne une parole, il lui impose les mains et c'est réglé. Si nous pouvions, frères et sœurs, l'Église doit avoir cette onction-là. Et cette onction est disponible. Nous devons la chercher. Et tout à l'heure, dans la louange, j'avais cette impression que la soif de Dieu, la soif de ces réalités spirituelles plus élevées que juste le strict nécessaire pour survivre, est dans votre cœur. Mais beaucoup, alors qu'ils reçoivent ces choses, ne donnent pas suite. Vous avez été touché, vous avez cette soif, mais vous laissez cette soif être envahie par d'autres choses et elle disparaît de nouveau. Or, il nous faut donner suite. Si Dieu vous touche, vous devez donner suite. Et non pas juste à la sortie du culte ou demain matin, vraiment surfer sur autre chose complètement différent. Il faut donner suite. Et ceux qui cherchent l'Éternel de tout leur cœur, ceux-là vont recevoir les réponses. Et c'est avec ceux-là que l'Église va vraiment grandir en maturité et en stature d'autorité. Il faut donner suite. Et j'avais à cœur juste de rajouter cela. Regardons maintenant cette condition, la condition de cette femme. Elle est pliée en deux. D'ailleurs, j'aurais presque dû faire l'expérience en vous demandant, mais je ne veux pas le faire, je ne veux pas recommencer. On aurait dû se lever et se courber en avant en lisant ce texte. Et juste la durée de la lecture, vous allez voir que vous avez déjà mal au dos. Imaginez-vous 18 ans dans cette condition, c'est juste... Qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit la terre. Elle ne voit que à un mètre le sol. Elle ne voit jamais l'horizon, elle ne voit jamais de loin. Une expérience intéressante s'est passée dans le cadre de la MAF. Je ne sais pas si vous connaissez la MAF, la mission l'aviation missionnaire qui amène les missionnaires et des soins dans les régions non atteignables. Elle raconte l'histoire suivante. Cette mission, donc la MAF, avait collecté des lunettes en Europe. Et elle avait donc fait toute une caisse ou plusieurs caisses de lunettes pour les emmener dans des endroits où il n'y avait pas d'opticien, pas d'ophtalmologue, etc. Et avec une équipe de médicale, ils sont arrivés au Lesotho, qui est donc cette petite enclave en Afrique du Sud. Et là, donc, il y avait des gens en file qui attendaient devant de petits dispensaires dressés à l'occasion pour les soins des yeux. Et dans cette file se trouvait une femme courbée, complètement courbée. Et lorsqu'elle arrive pour être diagnostiquée, pour être examinée, eh bien, on trouve, bien sûr, on trouve son problème ophtalmologique et tout, et l'ophtalmo va fouiller dans le bac des lunettes usagées qui sont arrivées. S'il ne trouve pas, il fait des mesures et tout, et trouve la lunette exacte qui correspond au problème de la dame courbée. Et puis, elle est toute heureuse de voir, « Ah !» Mais je vois, et lorsqu'il la voit repartir, elle qui était courbée, il voit tout à coup que tout en marchant pas après pas, elle se redresse parce que ses yeux voient ce qu'elle ne voyait jamais. Donc elle était toujours les yeux crispés, le front crispé, à regarder pour voir si elle ne pouvait pas trébucher quelque part. Elle était toujours de plus en plus courbée pour ne pas tomber par terre et trébucher sur un obstacle. Et avec ses lunettes, tout à coup, elle a vu clair et elle s'est redressée à cause de cela. Mes amis, est-ce que nous n'avons pas besoin quelquefois de recevoir des lunettes pour voir différemment et sortir de nos courbures qui nous voient que... avec les yeux rivés sur la terre. Sa myopie l'empêchait de voir la perspective. Frères et sœurs, même en tant que chrétien, je remarque que beaucoup de gens sont occupés, préoccupés à 90% des choses de la terre. Ils ont un regard qui est figé par terre et ils sont ainsi courbés dans leur vie chrétienne. Leur vie ne se redresse pas, ils ne rayonnent pas la stature que Jésus leur donne. Le Créateur vous a donné une stature droite, verticale, et qui rayonne en avant, qui regarde l'avenir avec espérance. Mes amis, que le monde regarde par terre en disant « Qu'est-ce qui va devenir demain de mes investissements ? Que va devenir demain mon emploi ? Que vont faire mes enfants ? Je ne sais pas, je suis préoccupé par les choses de la terre. » Mes amis, nous sommes redressés parce que nous avons une perspective d'avenir. Nous regardons l'espérance, un avenir fait d'espérance. Nous regardons ce que Jésus a tracé pour nous. Quoi qu'il arrive, mes soucis ne vont pas me pencher en avant, ne vont pas m'amener la douleur permanente dans ma journée, mais je regarde vers les promesses du Seigneur. Alléluia. Je regarde les promesses, je regarde que ma vie est entre les mains du bon berger. Je n'ai rien à craindre. Non, je ne craindrai rien. Nous n'avons chanté tout à l'heure. À cause de ces lunettes, cette correction de la vue aujourd'hui, tu peux te redresser en croyant à la parole de Dieu. Jésus va donner une parole. Une parole, ça suffit. Reçois la parole. Reçois-la pas comme quelque chose qui te percute, mais saisis-la comme un pain de vie et nourris-toi de l'espérance. Et regarde en avant avec espérance et ta vie fera la différence par rapport aux gens qui n'ont pas cette dimension de la perspective éternelle. Nous vivons pour l'éternité, frères et sœurs. Le ciel est pour nous, c'est notre vraie maison, c'est notre héritage, c'est notre vrai chez nous. Même si vous avez une superbe maison ici-bas, la maison de votre véritable demeure, ce n'est pas ici. Nous sommes passagers de passage et nous sommes pèlerins sur la terre. La perspective d'éternité doit toujours nous réjouir. Et non pas les angoisses du monde doivent nous faire pencher et nous courber dans la vie. Elle ne voit que donc la terre. Colossiens 3, 1, 2 nous dit « Si vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Encore une fois, j'aimerais réappuyer là-dessus. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont bien ressuscités en Christ, mais c'est resté théorique. Ce n'est pas rentré dans la pratique. Si vous êtes en Christ, si la nouvelle vie est en vous, alors vous allez spontanément, naturellement, regarder vers les choses célestes. Si tu es ressuscité en Christ et que tu es continuellement rivé à 95% des choses terrestres, il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème. Il y a un problème. Si vous êtes ressuscité en Christ, notre affection, notre désir, notre soif intérieure se porte vers les choses célestes. Si on doit te demander, te rappeler constamment, lis ta Bible, ah oui, j'y pensais plus. Viens prier, ah oui, ben c'est vrai que je n'ai pas le temps, mais c'est vrai que j'ai complètement oublié. Si ces choses sont dans l'oubli constant, votre vie en Christ, elle est soit minuscule ou inexistante. Ou alors elle a existé un temps, mais elle est devenue peau de chagrin, elle est devenue rien du tout. Aujourd'hui, redynamise ta vie en Christ. Et que ton âme et ton cœur puissent être dégagés de tout ce que le diable veut te mettre sur le dos pour qu'elle soit réduite à rien du tout. Mais aujourd'hui, respire. Ouvre ton cœur et tes poumons spirituels pour aspirer aux choses célestes et que ça devienne un petit peu important. Frères et sœurs, cette femme, elle avait cette soif. Sinon, elle ne serait pas à la synagogue. Elle aurait pu rester à la maison avec ses douleurs permanentes. Elle a dit, c'est trop difficile de me déplacer, je reste à la maison, je prie à la maison. Mais elle s'est déplacée pour un lieu de rendez-vous. Ce matin, vous vous êtes déplacée aussi pour un rendez-vous. Et je veux croire que, je vais parler tout à l'heure dans quelques instants de Jésus. Vous allez voir de quelle manière il a agi. C'est vrai que certains chrétiens vivent comme cette femme courbée. Ils ont une main sur eux qui les pousse vers le bas. J'ai déjà remarqué que même lorsque nous faisons des appels, il y a des personnes, rien que par leur posture, ils montrent le fardeau qui est sur eux. Ils sont tout comme ça. Et je dis, quand on prie aussi, surtout pour la réception du Saint-Esprit, mais écoutez, enlevez, j'ai prié dimanche pour quelqu'un pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il avait les mains dans les poches, ce monsieur. Il avait les mains dans les poches, comme ça. Je dis, mes frères, enlève tes mains, ouvre tes bras. Il faut que ta posture montre quelque chose quand même. Ta posture est importante, elle est le prolongement de ton âme si tu es comme ça en disant « Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. » Seigneur peut le faire, mais quand même, votre posture doit être libérée. Frères et sœurs, moi je ne pouvais pas lever les mains pendant longtemps, tout au début de ma vie chrétienne, mais que je suis heureux de pouvoir lever les mains aujourd'hui. Ma posture dégage quelque chose, elle est le prolongement de mon âme et de mon esprit qui désire quelque chose. Et cette femme, malgré ses douleurs, elle est venue quand même. Et le Seigneur l'a rencontrée. Il y a une autre chose encore. J'ai lu un commentaire là-dessus de la part d'un pasteur de Singapour en Malaisie qui m'a un petit peu inspiré. C'est que cette femme, courbée en deux, violemment, elle ne voit que la terre, nous l'avons dit, mais je précise un peu. Elle ne voyait que la poussière. Elle ne voyait que la poussière. Partout où elle va, chez elle et chez les autres, elle remarque que c'est poussiéreux. Elle remarque qu'il fait sale partout. On n'arrive pas à être quitte de cette poussière. Elle est permanente, omniprésente, elle est toujours là. Et qu'est-ce qui fait sale ici? Elle remarque la poussière chez elle et chez les autres. Et avec les années, en ne voyant que de la poussière, l'habitude s'est installée. On ne voit que d'abord ce qui ne va pas chez les autres, ce qui est sale chez les autres. On ne voit que ce qui ne marche pas, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas en ordre. Et avec cette habitude, il y a des chrétiens qui sont comme ça penchés en avant à chercher les petites poussières sur les pieds des gens au lieu de se réjouir de tout ce qui va bien. Et ils ont pris une habitude de ne plus pouvoir se réjouir. Et leur posture à eux, c'est la tristesse. Ils ne savent pas se réjouir de ce qui va bien parce qu'ils voient d'abord en long et en large et en dans tous les sens, dans toutes les trois dimensions de la vie pour remarquer tout ce qui ne va pas, les 25 points qui ne vont pas chez les autres ou peut-être même chez moi. Comment vois-tu ton prochain, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu ne vois que la poussière qui est dans leur maison, dans leur vie spirituelle, dans leur caractère? Et puis ne t'étonne pas que la joie t'échappe complètement. Tu ne peux pas te réjouir si tu ne vois que ce qui est négatif. Comment est-ce que Jésus a vu ses disciples? Est-ce qu'il a vu la poussière sur les pieds de ses disciples? Mais oui! Il savait avant même de les choisir qu'il avait beaucoup de travail à faire et qu'il aura du fil à retordre avec tous les 12 qu'il choisissait. Parce qu'il voyait bien sûr tous les points négatifs qu'il fallait changer et que le Saint-Esprit devra changer pour les ramener au modèle d'origine. Mais Jésus les a vus dans ce qu'ils allaient devenir. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons prendre un regard détaché de la poussière que vous trouverez partout? Chez les meilleurs chrétiens, vous la trouverez. Mais vous la trouverez surtout dans votre propre vie. Si on passe votre vie au scanner, vous allez trouver des défauts. Et si Dieu va faire l'examen, il va trouver de la poussière. Même chez le plus sanctifié parmi nous. Mais lorsque nous allons voir les gens dans ce qu'ils vont devenir, alors nous serons encourageants, nous serons positifs, nous serons comme Jésus plein d'espérance. Il a vu Pierre, non pas Simon le roseau et celui qui allait causer plein de problèmes et qui allait le laisser tomber au dernier moment, mais il allait voir Simon qui allait devenir le roc, le fondement de l'Église naissante. Comment est-ce que tu vois ton prochain? Cette personne, elle voyait que la poussière et elle disait « mais il faut faire le ménage, il faut faire le ménage, partout où je passe, il faut faire du ménage ». Elle était avec cette balayette en train de faire le ménage tout le temps, courbée en deux. C'était la position où elle pouvait, parce que redresser c'était tellement douloureux qu'elle restait comme ça. Donc elle faisait tout le temps des balayettes, du ménage. Et quand j'ai réfléchi là-dessus, je voudrais donner une parole. À vous, mes chères sœurs, vous, mesdames, qui faites un métier respectable, et je sais qu'il y en a parmi nous, de faire le ménage chez les autres. Et il y en a. C'est l'emploi, un des seuls que vous avez encore trouvé, c'est de faire le ménage. Faire les bureaux, les nettoyages, vider les poubelles, nettoyer, faire la vaisselle, et que sais-je encore. Et je voudrais vous dire une parole que j'ai trouvée chez un frère que j'avais à l'église de Vevey qui était balayeur de rue. Il a fait toute sa carrière balayeur de rue dans une ville de la Riviera. Et sur sa porte d'entrée, il avait affiché un texte de Martin Luther King que je vais vous lire et que je vous destine ce matin. Et voici ce texte. « Si ta destinée a voulu que vous soyez balayeur de rue, à l'heure, balayez comme Michel-Ange peignait ses tableaux, comme Shakespeare écrivait ses pièces, comme Beethoven composait sa musique. Balayez les rues si bien que même les hôtes du ciel et de la terre devront s'arrêter pour dire « Ici vécut un grand balayeur de rue qui a bien fait son travail. » Un texte de Martin Luther King. Tout ce que vous faites dans la vie, faites-le bien. Dieu voit votre travail. Vous n'êtes pas à la queue de toutes choses en disant, mais restez plus que la dernière des dernières choses. C'est balayer les saletés des autres, ramasser les papiers des autres. C'est un travail noble et honorable que Dieu voit. Faites le bien. Faites le bien, vous avez du mérite. Et Dieu voit. Bien sûr, si tu peux changer, fais-le. Mais en attendant, fais le bien comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Voyez-vous, il nous faut travailler avec une perspective. Cette femme qui est pliée en deux, elle n'a aucune perspective. Mais travaillons et faisons toutes choses avec une perspective. Comme cet homme qu'on a interrogé, il était en train de casser des cailloux. On lui demandait, qu'est-ce que tu fais ? Je casse des cailloux. Un autre de ses compagnons était en train de casser également des cailloux. On lui demande, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je casse des cailloux parce qu'on va l'utiliser pour monter un mur. Et puis le troisième qui était en train de travailler dans les cailloux, on lui demandait, toi, qu'est-ce que tu fais ? Mais je casse des cailloux parce qu'on va bâtir une cathédrale. Trois perspectives différentes. Avec quelle perspective est-ce que tu travailles dans la vie ? Dieu donne de la perspective, il donne une vision, il donne un sens à notre travail. Voulez-vous avoir un sens à votre travail ? Avez-vous trouvé déjà un sens à votre travail ? Eh bien, le Seigneur va vous donner cette parole et va vous relever aujourd'hui afin que vous puissiez avoir du sens et non pas avoir des miettes et juste un minimum de survie. Peut-être que ton passé est poussiéreux. Tu te dis, mais je nettoie ma vie, je me sanctifie, mais il y a toujours cette poussière. Je ne suis jamais sûr que cette poussière est partie. Il y a des personnes qui demandent 100 fois pardon pour quelque chose et ils ne sont jamais sûrs d'être pardonnés. Comment ça se fait ? Est-ce que vous lisez la parole ? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Pourquoi demander 100 fois pardon pour la même chose ? Encore une histoire, permettez-moi de la raconter. C'est un pasteur, c'est l'histoire d'un pasteur qui sentait une lourdeur dans sa vie. Il était comme cette femme courbée. Et il sentait cette main lourde et il se demandait, mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi je suis toujours lourd comme ça ? Et ce manque de joie. Et il s'est mis dans la prière. Et là, Dieu lui montre qu'en fait, il n'était jamais sûr que Dieu était content de son travail. Il n'était pas sûr que Dieu était content de son travail. Et tout à coup, l'image de son propre Père terrestre est arrivée, où il devait être à la hauteur de tout. Il faisait au mieux pour plaire à papa. Il faisait le maximum pour plaire à papa. C'était bien, mais ce n'était pas bon assez. C'est-à-dire qu'il avait déjà une bonne note, mais le Père attendait une note supérieure. Et partout où il passait pour plaire à son Père, il n'était jamais dans cette satisfaction d'avoir fait assez. Donc il fallait toujours, l'objectif n'était jamais atteint. Il croyait que Dieu était comme ça, pour finir. Il avait transféré l'image de son Père terrestre à son Père céleste. Et cette main, cette main d'une fausse image de Dieu était sur lui et l'empêchait d'être libre. Et là, il a compris ça. Il a abandonné ça, il a reçu l'amour de son berger, de son Père céleste. L'amour de Dieu est descendu sur lui. Il a été entièrement libéré. Et sa vie s'est redressée comme cette femme courbée a été redressée. Voyez-vous, à force de regarder la poussière, on mange de la poussière. Voyez-vous jusqu'où ça peut aller ? On mange de la poussière. Et il est dit quelque chose d'intéressant dans la Genèse. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait ça, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Ça a été dit à Satan. Et Satan veut que toi, tu manges aussi sa poussière. Lui est obligé de manger la poussière et il est tout content quand il a des participants qui avec lui sont en train de ramper par terre et manger la poussière, se nourrir de cette poussière, se nourrir de ce mauvais sentiment, de se nourrir de cette mauvaise image que nous avons de nous-mêmes et des autres. Mon frère, ma sœur, ne rentre pas dans les habitudes, mais redresse-toi aujourd'hui. Elle est arrivée au bon endroit. Elle est peut-être arrivée dans cette synagogue en disant, mais Seigneur, dans le psaume 145, il est dit que l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Et peut-être que quand même, il y a quelque part une espérance pour moi. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ne va pas demander une guérison, elle va pas dire, Jésus, Jésus, enfin tu es arrivé. S'il te plaît, ne m'oublie pas, Jésus. En pleine prédication, il s'arrête et il pointe la personne Il a repéré par le don spirituel, du don de connaissance. Frères et sœurs, il faut que les dons fonctionnent dans l'Église. Et que ce repérage spirituel de cette femme pliée, eh bien, il a interrompu sa prédication pour justement aller rechercher cette femme. Il l'a vue avec compassion, il l'a vue avec foi. Et il savait déjà ce que son père avait l'intention de faire pour elle. Elle était au bon endroit. Et Jésus, du fond de la salle, voit cette femme qui souffre sous la main de Satan. Il a compassion de cette femme, mais en même temps, il est fâché contre Satan. Frères et sœurs, pour la délivrance, nous devons être fâchés sur les actions du diable. Car le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Et ce matin, il veut le faire. Il veut le faire, il va le faire. Alléluia. Il va le faire. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est encore lui qui va dire, il ne brise pas le roseau cassé, mais il va le redresser, le réparer. Il va redresser ta vue, ton état d'esprit, ton intérieur et ta foi. Il va redresser cela pour que tu aies une perspective et que ton visage soit rayonnant et non pas en train de lécher la poussière pour ramper par terre comme le diable. Tu n'as pas à être la queue de quelque chose, mais la tête. Lève ta tête ce matin, le Seigneur va te relever. Je termine parce que on pourrait détailler, développer ce texte encore bien autrement, mais regardez ce chef de synagogue. Il vaut la peine d'être juste mentionné qu'on a l'impression, en l'écoutant, que c'est un employé de bureau qu'on vient déranger 3 minutes avant la fermeture des bureaux, n'est-ce pas ? On le dérange. Et quel est le vrai problème de cet homme ? C'est qu'il se croit patron de cette synagogue, c'est chez lui que ça se passe, et puis il y a du désordre chez lui, on n'est pas dans le règlement imposé, ça, il est contrarié, mais en réalité, il n'arrive pas à se réjouir de l'action du Saint-Esprit. Je vous pose la question, c'est une des dernières questions que je vous pose. Est-ce que vous arrivez à vous réjouir lorsque la bénédiction tombe sur quelqu'un d'autre ? La bénédiction de Dieu est distribuée à d'autres personnes. Même à des gens, vous trouvez que cette femme, elle est toujours là. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait là ? Mais Jésus va la guérir et cet homme n'arrive plus à se réjouir. N'arrive pas à se réjouir. Au lieu de dire, mais enfin, on a trouvé une solution pour cette femme. Enfin, Jésus, bravo, tu as enfin été la personne qui a pu redresser cette pauvre femme. Il n'a pas pu se réjouir. Mais le peuple applaudit, le peuple regarde Jésus, le peuple n'écoute même pas ce qu'il raconte. Il fait un sermon à tout le monde, mais ce sermon tombe plouf dans l'eau, parce qu'il ne vaut rien du tout. Allez vous faire guérir les autres jours, mais personne n'a besoin d'entendre ça. Mais Jésus va juste rebondir là-dessus en disant, mais vos règlements, votre loi, en réalité, vous la transgressez beaucoup plus que vous ne le dites. Vous la transgressez constamment. Et ne faites pas des reproches inutiles. Ce matin, alléluia, le Seigneur fait son œuvre au milieu de nous. Il redresse, il voit, il donne une parole, il pose sa main et il va relever. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît ? Seigneur, je te bénis ce matin pour, Seigneur, ce texte. Je crois qu'il est chargé de la même onction qu'autrefois, Seigneur. Et que ce que toi, tu as fait dans cette synagogue, Seigneur, tu vas encore le faire aujourd'hui, Seigneur. Et tu vas relever, redresser, remettre d'aplomb, Seigneur, des personnes qui marchent courbées dans la vie, qui ont sur eux, Seigneur, un esprit de tristesse, un esprit de maladie, un esprit de découragement, un esprit, Seigneur, qui les fait voir d'une manière négative, Seigneur, soit eux-mêmes, soit les gens, même soit Dieu lui-même. Seigneur, ce matin, Seigneur, tu donnes un regard différent. Tu mets des lunettes, Seigneur, spirituelles sur leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils soient guéris, qu'ils soient libérés, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, il s'agit d'hommes et de femmes ce matin qui ont besoin d'être redressés, Seigneur. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, que toute main satanique qui vous pèse dessus, qui vous empêche d'être libre et d'entrer dans votre perspective de vie spirituelle éternelle, que cette main soit brisée ce matin, qu'elle lâche prise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Tu es à l'œuvre ce matin. Je te bénis, Seigneur, pour l'action souveraine du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Et je proclame ce matin que Jésus a été courbé à la croix pour porter nos misères, porter nos fardeaux, pour porter nos maladies, pour porter nos tristesses. C'est lui qui a courbé son dos pour recevoir les coups, Seigneur. C'est toi qui as courbé ton dos pour recevoir la flagellation. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris aujourd'hui. Seigneur, tu as été courbé pour que nous puissions nous redresser aujourd'hui. Seigneur, redresse ce qui n'est pas droit, Seigneur. Redresse ce qui est tordu, Seigneur Jésus, dans nos mentalités, dans nos façons de voir. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de se réjouir du bonheur des autres. Vous aussi, vous avez besoin d'être redressés, comme le chef de la synagogue. Vous également. Alléluia. Il n'y a pas seulement les poids de la vie, il n'y a pas seulement les attaques sataniques. Il y a d'autres mentalités, plein de mentalités qui doivent être corrigées et redressées dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ce que tu fais, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus te voit, peut-être que tu n'as même pas besoin de faire un signe. Et pourtant, celui qui veut vraiment doit aussi se démarquer. Il doit aussi faire une démarche lui-même. N'attends pas que Jésus vienne frapper à ta porte encore 10 fois avant que tu ne réagisses. Mais aujourd'hui, réagis et donne une réponse au Seigneur. Là où tu es, tu peux lever ta main en disant, Seigneur, moi... Seigneur, j'en ai marre d'être courbé dans la vie, dans tel ou tel domaine, Seigneur. Je veux être relevé maintenant et redressé dans le nom de Jésus. Alléluia, redresse, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, que ce qui est courbé soit redressé ce matin. Seigneur, que ceux qui regardent par terre, ce qui est rivé aux choses terrestres strictement, puissent être libérés pour les choses célestes au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, d'agir. Agis avec puissance, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia.